Chers auditeurs de Radio Maria, chaque mois, nous retrouvons l'association Juriste pour l'enfance pour l'émission Défendons nos enfants. Aujourd'hui, nous retrouvons Olivia Serton. Notre thème, le danger des réseaux sociaux pour les enfants. Olivia Serton, bonjour.
Bonjour Sandra. Bonjour chers auditeurs de Radio Maria. Je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder aujourd'hui ce sujet qui laisse démunis, il faut le dire, de nombreux parents qui s'interrogent comment est-ce que les réseaux sociaux sont dangereux, comment protéger ses enfants des réseaux sociaux. Alors j'ai choisi de traiter ce sujet aujourd'hui parce que, vous ne le savez peut-être pas, il y a 3 propositions de loi autour de ce sujet qui sont en cours d'adoption au Parlement et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous tous qui œuvrez auprès des enfants, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, marraines, les éducateurs, de savoir un peu quelle est la législation et puis aussi ce que vous, concrètement, vous pourriez faire. Alors, sans doute, beaucoup d'entre vous savent que depuis de nombreuses années, quand même, il y a de nombreux professionnels qui, en s'appuyant sur des études solides et puis bien documentées, tirent la sonnette d'alarme sur les risques liés à l'utilisation des écrans par les enfants. Et puis, d'une part, donc l'utilisation des écrans en soi, hein, c'était pas nouveau, on avait déjà la télévision qui était là dans les foyers depuis de nombreuses années, mais les écrans, c'est surtout les... Maintenant, on parle des écrans, on parle des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. Et puis, second risque, c'est les risques liés à l'usage des réseaux sociaux. Or, on voit que ces mises en garde qui ont été adressées par les professionnels ne sont pas suffisantes. Hein. L'usage des écrans et des réseaux sociaux, ben d'abord, ils constituent un marché important. Et ce marché développe un marketing agressif vis-à-vis de ses clients. Par exemple, vous avez peut-être suivi que l'année dernière, ou même il y a 2 ans, en 2021, la Meta, qui est donc la maison mère de Facebook, voulait lancer des réseaux sociaux pour les moins de 13 ans. Et ce que les plateformes veulent en faisant ça, c'est maximiser en réalité la durée d'utilisation de leurs services par les personnes. Et donc, plus vous accoutumez des enfants jeunes à utiliser des réseaux sociaux, plus ils deviennent accros. Donc, heureusement, il y a eu une levée de bouclier et ces réseaux sociaux pour les moins de 13 ans n'ont pas été autorisés. Mais à partir de 13 ans, les enfants sont très... démarcher pour s'inscrire sur les réseaux sociaux et face à cela, les parents qui sont titulaires de l'autorité parentale et qui donc à ce titre sont responsables de l'usage des écrans et des réseaux par leurs enfants ou pour le compte de leurs enfants, eh bien soit ils sont mal informés, soit ils se sentent impuissants, soit parfois eux-mêmes ils peuvent être prisonniers un peu de cette addiction aux écrans et aux réseaux sociaux et en tout cas ils ne parviennent pas à mettre en place les mesures nécessaires pour protéger leurs enfants. Alors, peut-être vous vous dites, bon, d'accord, protéger les enfants des réseaux sociaux, mais en réalité de quoi ? Est-ce qu'il y a vraiment des risques ? Est-ce que les réseaux sociaux apportent aussi de bonnes choses ? Nos enfants nous en vantent les mérites ? Est-ce qu'il y a vraiment un danger ? Alors, je vais commencer par les écrans. Donc, l'exposition aux écrans, d'abord, elle entraîne des risques pour la santé, qui sont communs à nous tous, hein, qu'on soit adulte ou enfant, mais qui sont évidemment plus importants pour les enfants qui sont en plein développement physique et psychique. Alors, des risques pour la santé, par exemple, le premier risque, c'est que vous savez sans doute que l'exposition aux écrans altère la qualité et la quantité du sommeil, puisque c'est l'exposition à la lumière bleue qui altère la sécrétion de la mélatonine, qui est dite aussi hormone du sommeil. Or, de nombreux enfants et adolescents emportent leur écran dans leur chambre et certains d'entre eux passent une partie de la nuit éveillés sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont aussi attirés par les réseaux sociaux, mais aussi il y a quelque chose de physique, ils ont cette altération de la sécrétion de l'hormone du sommeil qui fait qu'ils ont plus de mal à s'endormir, à trouver le sommeil. Et je le redis, c'est vrai aussi pour nous, pour les adultes, il faudrait que chacun... arrive à se gouverner suffisamment pour laisser les écrans hors des chambres et prendre un temps de lecture ou de prière avant de s'endormir plutôt que de scroller sur son écran. Mais c'est bien difficile, on le sait bien. Ensuite, autre risque pour la santé des enfants, eh bien, les médecins notent l'augmentation du surpoids et de l'obésité parce qu'au lieu de pratiquer une activité physique, les enfants et les adolescents passent des heures statiques devant les écrans et ils consomment en outre, pendant ce temps, des produits gras et sucrés. Et donc, ça altère leur santé au lieu d'aller courir dehors. Et voilà, ils sont prisonniers de ces écrans. Et puis, par ailleurs, il y a des choses qui sont plus importantes aussi, comme la difficulté de concentration. Notamment, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. On le disait déjà pour les émissions de télévision où on voit des enfants qui sont mis devant des dessins animés avant même d'aller à l'école. Et bien, quand ils arrivent à l'école, ils ont du mal à se concentrer pendant les heures de cours. Et même maintenant, les enseignants constatent que les plus grands, les adolescents, ils ont même du mal à se concentrer sur plusieurs pages d'un livre à la suite. Et puis enfin, alors il y a un mot nouveau qui a été créé, ça s'appelle la technoférence. Et la technoférence, c'est le fait que les écrans interfèrent tout le temps dans notre vie passée en famille par les sollicitations qu'ils nous adressent. Donc les bips, voyez, qu'on a sur nos téléphones et qui sonnent en permanence et qui fait que les gens vont être liés en réalité à leurs écrans et que même pour un temps de repas ou de jeux de société passé entre parents, grands-parents, oncles et tantes et enfants, eh bien, les uns ou les autres vont être sans cesse tentés de prendre leur téléphone pour aller lire le message qui vient de biper. Et c'est ce qu'on appelle la technoférence, c'est-à-dire la technique qui vraiment interfère dans nos relations de famille. Et ça altère la qualité des relations parce qu'on n'est pas pleinement présent avec les enfants avec lesquels, par exemple, on fait un jeu de société si les uns et les autres sont en permanence attirés par leur téléphone. Et puis pour les plus jeunes, on constate que cette technoférence nuit à l'acquisition du langage puisqu'elle appauvrit les interactions avec l'entourage. Donc ça, voilà, ça je vous ai dépeint déjà. J'espère que je ne vous effraie pas trop, mais je vous dépeins déjà les risques avec les écrans. Et maintenant, les risques avec les réseaux sociaux. Parce que les risques avec les réseaux sociaux sont évidemment particuliers et majorés par rapport aux risques relatifs aux écrans. Eh bien, les risques avec les réseaux sociaux qui ont été constatés, c'est en premier lieu une hausse des troubles mentaux, qui sont constatés notamment depuis 2010, c'est-à-dire depuis le moment où les smartphones ont vraiment fait leur apparition en masse auprès de chacun et où aussi les connexions Wi-Fi se sont développées un peu partout, les connexions, le développement des forfaits Internet, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très facile d'être en permanence connecté à un réseau social. Eh bien, on constate, il y a des études très bien documentées qui ont été faites, notamment aux États-Unis, et qui ont montré qu'il y avait vraiment une hausse de l'anxiété, de la dépression, des troubles de l'humeur. Et c'est particulièrement vrai dès qu'on dépasse un certain nombre d'heures d'utilisation par jour des réseaux sociaux. Or, par exemple, en Grande-Bretagne, donc c'est des chiffres qui ont été réalisés dans des pays étrangers, mais on sait que les stats doivent montrer que c'est à peu près pareil en France, eh bien 50% des ados britanniques passent 5 heures par jour sur les réseaux sociaux et ont des signes, des symptômes cliniques de dépression importants. Voilà, il y a une étude aussi assez poussée qui est parue dans une revue psychiatrique en 2019 et qui a montré que les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux sont l'insatisfaction, puisqu'on se compare en permanence à des vies rêvées ou à des modèles qui sont irréels. Donc l'insatisfaction, la culpabilité, la dépression, la malveillance, l'agressivité. Et puis on a eu ces lanceurs d'alerte, par exemple de la maison Facebook, qui ont révélé qu'un nombre très important d'adolescentes, souvent, qui vont déjà mal dans leur corps, vont encore plus mal avec l'utilisation des réseaux sociaux. On avait déjà parlé sur cette émission du sujet douloureux du questionnement de genre, et on sait que le questionnement de genre, c'est-à-dire la remise en cause de l'identité biologique qui est la nôtre, qu'on a dès in utero et qui est constatée à la naissance, eh bien, cette remise en cause, ce questionnement de genre chez les enfants et les adolescents qui pensent qu'ils sont d'un sexe autre que leur sexe biologique, elle est souvent initiée ou alors aggravée par l'utilisation des réseaux sociaux. Et puis, on constate aussi qu'il y a vraiment une augmentation de l'insatisfaction liée au niveau de vie, au niveau physique. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent ressembler à leurs photos liftées. Vous savez ce qu'on appelle photo liftée, là, c'est quand on modifie ses photos sur les réseaux sociaux. Eh bien, il y a des demandes de chirurgie esthétique pour ressembler à la photo liftée qu'on a postée sur les réseaux sociaux. Bon, et par ailleurs, on constate aussi une limitation de la capacité de réflexion et de la liberté de conscience, puisqu'on sait qu'il y a des algorithmes sur les réseaux sociaux qui mettent en place des politiques de censure, qui nous envoient donc du contenu en fonction de ce qu'ils estiment être nos centres d'intérêt. Et donc, ça favorise une certaine bien-pensance et ça limite la capacité de réflexion par soi-même, la capacité de penser par soi-même et la liberté d'opinion et de conscience. Et puis enfin, on a aussi tout ce qui est de l'ordre du contenu, donc l'exposition à des contenus violents, à des contenus pornographiques, à des contenus dangereux qu'on ne maîtrise pas en réalité. C'est pas comme quand on fait le choix d'une émission de télévision. Là, c'est du contenu qui arrive poussé par les algorithmes. Donc, les jeunes peuvent être exposés très facilement et ils sont aussi exposés, on le sait, au cyberharcèlement. Alors, eux-mêmes peuvent être victimes de cyberharcèlement ou de pratiques nocives sur les réseaux sociaux, ou peuvent eux aussi être incités à participer en réalité à de la violence collective en ligne, à participer à ce cyberharcèlement. Et ça, c'est via les réseaux sociaux où il y a un sentiment d'impunité qui se développe. Et puis, il y a aussi une escalade, une surenchère. On le voit sur les réseaux sociaux. Le langage est vraiment débridé. Il y a très peu de retenue. Et donc, il y a vraiment une violence propre aux réseaux sociaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres sont importants. Par exemple, dans les propositions de loi là, dont je vais vous parler, qui sont en cours d'examen devant le Parlement, il a été mis au jour que chaque jour, sur les réseaux sociaux, il y a 300 millions de photographies qui sont diffusées. Également, il a été constaté qu'en moyenne, pour un enfant avant l'âge de 13 ans, eh bien, il y a en moyenne, en France, 1300 photographies de chaque enfant de moins de 13 ans qui ont été mises en ligne, soit par ses parents, soit par lui-même, soit par ses proches. Et puis, autre chiffre, il y a 50% des photographies qui s'échangent sur les réseaux pédopornographiques qui proviennent initialement de photos anodines qui ont été publiées par des parents sur des réseaux sociaux, et ces photos sont détournées pour des usages pédopornographiques. Alors, il est important de protéger les enfants parce que les enfants ont accès de plus en plus tôt à ces réseaux sociaux. La moyenne en France, la moyenne de l'âge auquel un enfant va se voir donner un smartphone et donc l'accès à des réseaux sociaux, c'est 9-10 ans. Donc c'est extrêmement tôt parce que c'est un âge où ils ne sont pas capables de développer une autodiscipline pour réguler l'usage de leur smartphone et des réseaux sociaux. En théorie, je vous disais tout à l'heure, les enfants ne devraient pas pouvoir s'inscrire sur un réseau social avant l'âge de 13 ans. Mais comme il suffit de cocher une case en arrivant sur la page d'inscription d'un réseau social, il suffit de cocher une case en disant « j'ai plus de 13 ans », eh bien 65% des enfants de moins de 13 ans ont déjà un compte sur les réseaux sociaux. Donc entre 9 et 13 ans, 63% de ces enfants ont déjà un compte sur les réseaux sociaux en violation des conditions d'utilisation, et 80% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas accès en réalité à leur contenu. Voilà, je précise aussi que Instagram est considéré comme la plateforme la plus dangereuse pour la santé mentale des réseaux sociaux. Alors, face à ce constat qui est quand même un peu dramatique, un peu effrayant, donc il y a eu finalement une mobilisation des parlementaires, des décideurs politiques, pour essayer de mettre en place des propositions de loi qui sont en cours d'adoption. Donc elles ont déjà toutes les trois, il y a trois propositions de loi, elles ont déjà toutes les trois été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, et elles sont toutes les trois en cours d'examen, courant mars, là, mars-avril, par le Sénat. Alors quels sont le contenu de ces lois? Donc la première proposition de loi, elle vise à prévenir l'exposition excessive des tout-petits aux écrans. Donc là, c'est une proposition de loi qui veut protéger vraiment les tout-petits, c'est-à-dire les 0-5 ans, qui malheureusement se voient souvent mis devant des écrans. Donc pour les protéger, eh bien alors d'abord, il y a la plateforme du gouvernement jeprotègemonenfant.gouv.fr, qui est une plateforme qui existait déjà dans le cadre de la lutte contre la pornographie. Là, il y a des nouveaux contenus qui ont été créés pour informer les parents sur le danger qui constitue l'exposition de leurs enfants aux écrans. Donc, première source d'information. Par ailleurs, il va y avoir des formations spécifiques qui vont être dédiées aux professionnels de santé et aux professionnels de la petite enfance, notamment aux enseignants du premier degré, pour qu'ils puissent sensibiliser les parents. Et puis, il va y avoir des messages d'information sur les emballages des téléphones portables, des ordinateurs, un peu comme on a des messages de prévention sur les paquets de cigarettes. Et puis, on aura aussi, quand il y aura des publicités pour ces produits, eh bien, il y aura aussi un message de prévention, hein, comme quand il y a une publicité pour l'alcool et que vous avez le message de prévention qui va en même temps, attention à l'abus d'alcool, eh bien, on aura la même chose pour les écrans. Voilà, donc ça, c'est la première proposition de loi. La seconde proposition de loi, elle veut protéger les enfants de leur exposition sur les réseaux sociaux par les parents. Puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de photos qui sont postées par les parents et qui concernent les enfants. Et donc là, la proposition de loi, elle veut réglementer un peu ce qu'on appelle par exemple les vlogs familiaux. Alors les vlogs familiaux, c'est la mise en scène sur une chaîne YouTube ou Instagram ou Facebook, du quotidien d'une famille sous la forme d'une série de vidéos. Alors, en général, c'est complètement dénué d'intérêt. Voilà, j'allais employer un mot pas très poli, mais je m'arrête. Dénué d'intérêt. Vous avez un livre intéressant qui en a fait une bonne critique, qui est « Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan. Vous pouvez aller le lire. Ça dépeint très bien ce que sont ces vlogs familiaux. Mais vous avez aussi toute la publication sur les réseaux sociaux des contenus relatifs à leur... par les parents de contenus relatifs à leurs enfants, que ce soit des photos, voilà, des courtes vidéos saisies sur le moment. Donc, pour encadrer un peu ce phénomène, la proposition de loi a complété l'article du Code civil qui est relatif à l'autorité parentale. C'est l'article 371.1 du Code civil. Vous avez dû plusieurs fois dans nos émissions en entendre parler. Et cet article a été complété en disant que le respect dû par les parents à la parole de l'enfant, à la personne de l'enfant, il comprend aussi le respect dû à la vie privée de l'enfant. Voilà, autre précision, la proposition de loi précise que le droit à l'image est exercé en commun par les parents. Alors, c'était déjà la position qui était adoptée par la jurisprudence, qui avait jugé à plusieurs reprises que la publication de photographies de l'enfant et de commentaires relatifs à l'enfant sur des réseaux sociaux, il ne constitue pas ce qu'on appelle un acte usuel de l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'un parent seul, bon, ça concerne le cas des parents séparés, un parent seul n'a pas la capacité seule de publier ses photos et de faire des commentaires, il faut que les deux parents soient d'accord. Et en cas de désaccord des parents, eh bien, il est possible pour celui qui veut publier de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir soit l'autorisation de diffusion du contenu, soit pour le parent qui est en désaccord, l'interdiction de la diffusion du contenu. Et enfin, le dernier apport de cette proposition de loi, c'est de dire que la diffusion de l'image de l'enfant qui porte gravement atteinte à sa dignité ou son intégrité morale peut constituer un motif de délégation totale ou partielle de l'autorité parentale. Là, ça vise le cas qui existe malheureusement où des parents mettent en scène sur les réseaux sociaux des pratiques humiliantes ou dégradantes qui sont filmées par les parents eux-mêmes. Voilà. Et puis la dernière proposition de loi, eh bien, alors là, elle va donc restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. Donc désormais, les mineurs de moins de 13 ans ne pourront s'inscrire que sur des réseaux sociaux qui ont été labellisés par le gouvernement en fonction de l'intérêt qu'ils représentent sur le plan éducatif, culturel et pédagogique normalement. Ce qui devrait signifier que les enfants de moins de 13 ans ne devraient plus avoir accès à Instagram, par exemple. Donc on espère que les labels qui vont être donnés par le gouvernement ne vont pas être dispensés trop généreusement, l'avenir va nous le dire. Pour les enfants de 13 et 14 ans, ils pourront s'inscrire sur n'importe quelle plateforme des réseaux sociaux, mais seulement avec l'autorisation expresse des titulaires de l'autorité parentale. Et donc, tous les enfants qui ont actuellement 13 et 14 ans, dès que la proposition de loi aura été adoptée, ils devront aussi, même s'ils sont déjà inscrits sur un compte de réseau social, ils devront justifier de l'autorisation expresse des titulaires de l'autorité parentale. Alors, on ne sait pas encore quels moyens techniques vont être mis en œuvre pour vérifier cette autorisation expresse. C'est à la CNIL d'élaborer ces solutions techniques. Et si ces solutions techniques de vérification de l'âge ne sont pas mises en œuvre, eh bien le président de l'ARCOM, l'ARCOM c'est l'ancien, c'est le nouveau nom du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le président de l'ARCOM devra mettre en œuvre le fournisseur du réseau social, de prendre toutes les mesures nécessaires. Et si au bout de 15 jours, les mesures n'ont pas été prises, eh bien, il pourra saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner la mise en œuvre d'une solution technique conforme et dans l'attente, une amende qui pourra être signifiée au fournisseur et qui pourra aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. Voilà. Et puis enfin, il y aura aussi un rapport qui est prévu pour que le gouvernement soit pleinement informé des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Alors, c'est intéressant de se demander ce qu'on peut penser de ces lois. Donc, c'est vrai que c'est intéressant qu'enfin, les pouvoirs publics aient pris la mesure du danger que représentaient les écrans et les réseaux sociaux pour les enfants et les jeunes, et qu'ils essaient de venir au secours des parents démunis. Bon, on peut quand même faire quelques critiques et quelques observations. D'abord, on peut se demander, est-ce que la loi régulant l'accès aux réseaux sociaux va vraiment pouvoir être appliquée ? Parce que c'est vrai que, je crois qu'on en avait déjà parlé aussi sur cette antenne, on a des dispositions similaires qui ont été adoptées pour protéger les mineurs contre l'accès à des sites pornographiques, et pourtant, jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé. Alors qu'on a déjà eu une saisine ancienne du tribunal judiciaire de Paris par le président de l'ARCOM. Mais aujourd'hui, rien n'a bougé sur ces sites. Mais il est vrai qu'en ce moment, il y a une solution technique qui est en cours d'élaboration et il semblerait que cette problématique de l'accès des mineurs, enfin de l'interdiction d'empêcher concrètement les mineurs d'accéder aux sites pornographiques, soit en cours de résolution. La CNIL a travaillé en partenariat avec un professeur de Polytechnique et puis le pôle d'expertise de la régulation numérique de l'État. Et ils ont créé un prototype de dispositif qui va être testé là, à partir du mois de mars, pour assurer un contrôle efficace de l'âge de l'utilisation de ces sites et donc garantir en même temps une protection de la vie privée, puisque c'était ce sur quoi tous les dispositifs techniques a chopé jusqu'à maintenant. Donc le principe qui devrait être mis en place, c'est que chaque utilisateur recevra un jeton numérique qui va certifier son âge et qui sera tamponné par une autorité extérieure. Et le principe, c'est que l'organisme qui certifie que vous avez l'âge requis sait qui vous êtes, donc il sait si vous êtes majeur ou mineur, mais il ne sait pas quel site vous allez visiter. Alors que le site que vous allez visiter, il reçoit la preuve que vous avez l'âge requis, mais il ne sait pas qui vous êtes. Donc on peut imaginer qu'il pourrait y avoir la même solution technique qui pourrait être mise en œuvre s'agissant des mineurs et des réseaux sociaux, qui auraient donc un jeton numérique qui certifierait qu'ils aient moins de 13 ans, 13 ou 14 ans, 15 à 17 ans ou plus de 18 ans. Donc, on peut imaginer que vraiment tout ça va pouvoir être mis en œuvre. Et puis, même si on attend de voir le côté effectif quand même. Une seconde difficulté que j'identifie, c'est que la loi n'a pas précisé qu'il était nécessaire pour accéder aux réseaux sociaux à l'âge de 13 et 14 ans, quand l'autorisation parentale était nécessaire, eh bien la loi n'a pas précisé qu'il fallait l'autorisation des deux parents. Or, on sait que dans le cadre de séparation parentale, l'accès aux smartphones et aux réseaux sociaux est fréquemment un motif de divergence entre les parents, un motif de divergence, voire un motif pour l'un des parents de capter l'attention ou l'affection de son enfant en disant « moi, tu vois, je t'autorise à aller sur les réseaux sociaux alors que ton père ou ta mère ne t'y autorise pas ». Donc, c'est une seconde difficulté que j'identifie. Et puis, par ailleurs, il y a quand même des critiques qu'on peut adresser à cette loi. D'abord, je vous ai dit, à partir de 15 ans, les mineurs pourront s'inscrire librement sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage que cette limite de 15 ans n'ait pas été relevée à 16 ans, comme le préconise le Règlement général européen sur la protection des données, qui préconise plutôt de retenir l'âge de 16 ans, mais laisse la liberté aux États. Et c'est vraiment dommage que les parlementaires ne se soient pas emparés de cette occasion pour relever l'âge en France d'accès aux réseaux sociaux librement à 16 ans, parce que chaque année passée loin des réseaux sociaux pour les enfants, c'est vraiment une année gagnée. Par ailleurs, on peut se dire qu'il est quand même regrettable de devoir en passer par la loi pour rappeler aux parents leurs devoirs et leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Hein, en réalité, vous devez sans doute vous dire, au vu des comportements que je vous ai relatés, que l'urgence, c'est vraiment d'éduquer les parents à leur rôle de parents, à leur rôle éducatif. Parce que beaucoup d'entre eux croient bien faire ou ne savent pas comment agir dans ce domaine comme dans bien d'autres, mais ils pensent qu'en donnant un smartphone à leur enfant, ils leur font plaisir, ils les font entrer dans un monde d'adultes, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Donc l'arsenal législatif, c'est toujours un pis-aller. Hein, notre société, elle a d'abord besoin de retrouver un lien social qui soutienne et qui enseigne les jeunes générations dans leur mission de parents. La loi ne peut pas faire tout le travail, donc les parents, ils ont besoin eux-mêmes d'être éduqués. Et puis, ils ont besoin d'être soutenus aussi, parce qu'on imagine bien que les parents vont être multi-sollicités par les enfants pour obtenir la fameuse autorisation pour les enfants de 13 et 14 ans pour pouvoir s'inscrire sur les réseaux sociaux, et que c'est très difficile pour des parents qui vont être, entre guillemets, harcelés du matin au soir par leurs enfants, qui leur diront « mais mon ami ou toute la classe a accès aux réseaux sociaux et moi, je suis le seul à ne pas avoir accès à tel réseau social, ce qui fait que je n'ai pas accès au groupe de classe et donc je ne peux pas avoir les enfants, donc je ne peux pas avoir les informations, donc je ne peux pas faire le travail, etc. » Donc ça sera très difficile pour les parents d'y résister. Ils auront besoin d'être soutenus, d'autant plus dans un contexte où parfois c'est même les écoles qui incitent les enfants au numérique. Par exemple, en Seine-Maritime, depuis cette année, les iPads ont été, les tablettes ont été rendues obligatoires pour tous les enfants dès la sixième, au prétexte d'avoir des apports numériques dans leurs apprentissages scolaires. Voilà. Autre critique que j'adresse à cette loi, c'est qu'elle contribue à déresponsabiliser les réseaux sociaux, puisque la problématique de fond vient des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux en soi qui peuvent être toxiques et nocifs. Et au lieu d'enjoindre aux réseaux sociaux de mettre en place des moyens de régulation de leur contenu, eh bien, en fin de compte, ils vont bénéficier d'une clause finalement de déresponsabilisation, puisque si un enfant va mal à sa santé mentale altérée à cause des réseaux sociaux, eh bien demain, ces réseaux sociaux, ils vont s'abriter derrière l'autorisation qui est donnée par les parents. Aux États-Unis, il y a un procès qui est en cours. Il y a des écoles qui ont intenté une action en justice contre les réseaux sociaux pour atteinte à la santé mentale de leurs enfants. Bah, demain, ça ne sera plus possible. Et puis, on va laisser les réseaux sociaux s'adresser aux plus âgés, 15, 16, 17 ans, alors que leur nocivité est vraiment connue. La Commission européenne interdit depuis le mois de février 2023 l'installation de l'application de TikTok sur tous les appareils professionnels de son personnel. Donc la Commission européenne dit aux fonctionnaires européens, vous ne pouvez pas installer TikTok sur vos appareils professionnels, il y a un très gros danger, mais par contre on ne protège pas nos ados de 15, 16 et 17 ans contre cette installation de TikTok. Je le regrette. Voilà.
Olivia Sarton, nous avons reçu un message de Vincent qui écrit ceci. Bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Comment expliquer que des personnes nous contactent avec Telegram alors que nous n'avons même pas donné? Je peux pas appeler car je suis en larmes. Merci pour votre réponse. Soyez bénis. Et c'est signé Vincent.
Alors, je ne suis pas une technicienne, Vincent, malheureusement, je suis juriste et je ne connais pas bien le fonctionnement des réseaux sociaux. Mais à partir du moment où, il semble qu'à partir du moment où vous avez téléchargé Telegram sur votre téléphone et qu'en même temps, vous avez la personne dans votre carnet d'adresse ou qu'elle, elle vous a dans son carnet d'adresse, eh bien, vous recevez une notification vous disant qu'un tel est sur Telegram et la personne peut vous contacter. Alors, il me semble qu'il y a un moyen de bloquer, c'est-à-dire qu'il y a un moyen pour que vous puissiez recevoir des messages seulement des personnes que vous autorisez à vous téléphoner, par exemple. Et que si vous ne donnez pas cette autorisation, les personnes ne pourront pas vous joindre. Il faut aller dans vos réglages sur Telegram et puis vous devriez pouvoir trouver ça. Peut-être en vous en aider quelqu'un qui est un peu plus expert sur Telegram que moi.
Oui, sur les réseaux sociaux, normalement, on peut rentrer dans les paramètres de son compte et mettre des verrous. Alors, je ne connais pas non plus Telegram. Par contre, je connais Facebook et Instagram. Et on peut dire, ben voilà, je ne veux pas recevoir de messages de personnes que je ne connais pas, par exemple.
Voilà, tout à fait.
Il suffit juste de cocher la case. Bon, ce n'est pas un système parfait, on est d'accord. Oui. Alors, nous avons reçu un message de Marise qui écrit « Bonjour, merci pour vos propos. J'aimerais juste ajouter que beaucoup de parents mettent une tablette ou autre pour être tranquille. Bonne et saine journée. » C'est signé Marise.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'insistais sur l'importance de pouvoir éduquer les parents, entre guillemets. Et ça, c'est nous tous qui sommes autour des parents qui pouvons les alerter pour leur dire « Attention, en réalité, vous ne rendez pas service à vos enfants. Vous pensez peut-être avoir une paix temporaire, mais après, ça va malheureusement se payer parce qu'on a des enfants qui ont des difficultés à se concentrer, qui sont nerveux. » Enfin, j'ai exposé tous les domaines. Alors, il faut alerter les parents, mais il faut aussi, je pense, leur donner une aide concrète. C'est-à-dire que, voilà, on en discutait un peu tout à l'heure avec Bruno. Avant, c'est vrai que les parents n'étaient pas seuls avec leurs enfants. Ils bénéficiaient vraiment d'une aide de la famille élargie, des voisins. Il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient relayer les parents dans la prise en charge des enfants. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec l'individualisme de nos sociétés et puis aussi la modification de nos modes de vie où chacun, beaucoup, vivent soit isolés à la campagne, soit au contraire isolés en ville. Et les parents n'ont pas de ressources, n'ont pas de relais. Donc, il faut vraiment aussi tous se mobiliser pour aider ces parents à pouvoir proposer autre chose à leurs enfants. J'insiste aussi sur le fait, pareil, dans le souci d'aider les parents, parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas tout, ces pauvres parents. Eh bien, il faut essayer de leur faire des propositions. J'en parlais éducatif, par exemple, leur faire connaître les chantiers éducation des AFC qui sont vraiment des structures très utiles pour apprendre leur rôle de parent, puisque la transmission n'est plus faite par les générations autour d'eux. Ils ont besoin d'apprendre leur rôle de parent et pour ça, voilà, il y a une bonne proposition, vraiment très bonne proposition que sont les chantiers éducation qui ne coûtent rien. Voilà, on participe chaque mois à un groupe qui se réunit, il y en a dans toutes les régions. Et les parents vraiment apprennent leur rôle de parent. Et puis aussi, il faut les inciter, parce que c'est difficile de répondre aux sollicitations des enfants. Il faut aussi leur faire connaître les groupes de parents qui se mettent ensemble les uns avec les autres pour se fortifier, se donner des bons conseils. Il y en a un qui s'appelle « Parents unis contre les smartphones avant 15 ans ». C'est bien de rejoindre ces groupes-là parce que d'abord on est rassuré, on peut retrouver du soutien par exemple quand on a eu un adolescent particulièrement en colère et particulièrement agressif parce qu'il n'a pas son téléphone, eh bien on peut aller déposer son fardeau un peu en disant voilà, j'ai vécu une soirée très difficile avec mon ado qui était vraiment en rébellion contre cette mesure et on est soutenu. C'est important pour les parents de savoir qu'il y a ces groupes qui existent.
Alors, nous avons reçu deux autres messages. Alors, Tracy, je n'oublie pas votre question, je vais la poser ensuite. Mais je voudrais d'abord lire le témoignage de Peggy. Bonjour, madame, merci pour votre intervention dans laquelle je me retrouve. Je pense aujourd'hui qu'il faudrait que nous, parents, reprenions notre rôle de parents et dire non au téléphone et autres écrans dans nos vies. Mon fils vient d'avoir un téléphone portable à 16 ans, mais pas un smartphone, car j'avais constaté que les écrans agissent sur son moral. Pour ma fille de 12 ans, c'est un peu plus dur, mais je tiendrai bon, toujours dans la discussion, en lui permettant, durant quelques heures, d'être sur notre ordinateur. Une chose est sûre, l'école et l'État, en intégrant la possibilité de faire les devoirs via les ordinateurs, c'est horrible quand nous, parents, nous luttons contre les écrans. Merci, et c'est signé Peggy.
Merci Peggy. Peggy a tout à fait raison, c'est vrai que c'est important. Je discutais avec une pédopsychiatre qui est très... travaille beaucoup pour restaurer la santé mentale des jeunes. Et une de ses mesures phares, c'est de dire qu'il faut couper l'addiction aux écrans, aux réseaux sociaux. Et alors, elle travaille pas en France, elle travaille en Belgique, mais elle a des mesures extrêmement radicales. Donc, elle fait de la pédopsychiatrie, mais en ambulatoire, c'est-à-dire qu'elle se rend chez les patients. Et elle me racontait que chez un jeune de 13 ou 14 ans qui allait vraiment mal, avec l'accord de ses parents, eh bien, elle était repartie avec tous les écrans de la maison et elle les garde le temps qu'elle estime nécessaire pour que, d'une part, la santé mentale de l'enfant s'améliore et, d'autre part, qu'il y ait un sevrage qui se fasse par rapport à ces écrans. Et elle insistait sur la nécessité de retrouver une éducation verticale. Elle dénonçait un peu les excès de l'éducation trop bienveillante qui fait que les parents n'arrivent plus à imposer des règles à leurs enfants. Et elle insistait vraiment sur la nécessité de faire valoir l'autorité parentale. Si nécessaire, en retirant le smartphone, elle me disait, voilà, dans certains cas, il faudrait que les parents partent travailler, par exemple, en partant avec les câbles. Et puis montrer l'exemple aussi, Peggy, je crois que vous l'avez dit. C'est important aussi que les parents montrent l'exemple et qu'ils ne soient pas eux-mêmes totalement addicts à leurs écrans.
Alors, pour rebondir sur le message de Peggy, moi, je pensais à une chose. J'ai connu, je suis assez vieille pour avoir connu les cabines téléphoniques à pièces. Alors, c'est vrai que des parents peuvent se dire, on va donner un téléphone portable à notre enfant parce que il faut qu'il puisse nous joindre en cas de problème. Et je pense que la première erreur des gouvernements, c'est d'avoir supprimé les cabines téléphoniques. C'est-à-dire qu'on n'a plus la possibilité, si on n'a pas de téléphone, de joindre quelqu'un en cas de problème.
Oui, ça c'est vrai. Alors, il y a quand même une initiative intéressante, d'ailleurs c'est un peu ce que disait Peggy, c'est-à-dire qu'il y a même des jeunes qui font le constat que les smartphones nuisent à leur santé mentale et qui décident de s'en débarrasser au profit des téléphones qui ont des noms variés, soit il y en a qui, chez moi, ils les appellent les frigidaires, mais c'est les téléphones à touche, quoi, les téléphones à clapet sur lesquels on n'a pas de connexion à Internet, où on peut téléphoner, donc c'est le but, et puis éventuellement passer un SMS, même si c'est un peu difficile, parce qu'en général, comme il y a plusieurs lettres sur la même touche, bon, il faut faire des filets, donc ça prend un peu de temps pour envoyer un SMS, mais enfin, on a un moyen de communication en cas d'urgence. Et c'est vrai qu'on a un petit courant qui se développe chez les jeunes. Bon, parfois, évidemment, ceux qui ont une prise de conscience. Donc souvent, c'est des un peu plus âgés, 17, 18, 19 ans. Aux États-Unis, il y a même des jeunes qui ont fondé ce qu'ils ont appelé un Ludite Club, donc L-U-D-D-I-T-E. Ils ont pris ce nom du courant ludite, le courant ludite qui est attribué à un ouvrier anglais qui s'appelait Lud, L-U-D-D, et qui au 19e s'était élevé contre l'industrialisation et qui avait lancé un mouvement assez extrême de destruction des machines. Mais en attendant, ce qu'il dénonçait, c'était le rapport à la technique ou l'inféodation à la technique. Et donc, en référence à ce refus de l'inféodation, pardon, je vais y arriver à la technique, eh bien, ces jeunes ont lancé des ludites clubs. Alors, c'est toujours un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on se restreint volontairement du smartphone et on se contente d'un outil qui est nécessaire pour recevoir des messages et téléphoner, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on est bien content de pouvoir, si son enfant a 20 minutes, une demi-heure de retard, de pouvoir lui passer un petit coup de fil, de savoir qu'il est dans un bus qui est bloqué dans un embouteillage, par exemple. Eh bien, pour se soutenir, voilà, ces jeunes ont créé donc des clubs dans lesquels ils se retrouvent et ils échangent sur les bienfaits d'avoir abandonné les smartphones et puis ils se confortent face à la pression de leur père paye IRS parce qu'évidemment, il y a toujours cette pression de l'extérieur pour leur dire quoi, mais t'as toujours pas de smartphone, tu es complètement has-been.
Alors, on termine avec une question qui n'est pas dans le thème, mais bon, je vous la pose. C'est Tracy qui écrit « Bonjour, je m'appelle Tracy, je suis étudiante. Comment êtes-vous devenue juriste au sein de cette association ?»
Alors, je suis devenue, donc ça fait 3 ans et demi que je suis juriste au sein de cette association. J'ai d'abord une formation d'avocate et j'ai exercé pendant plusieurs années au barreau de Paris, dans un domaine qui était un peu différent, parce que je travaillais pas, dans un domaine complètement différent. J'étais spécialisée en droit du travail, donc c'est vrai que ça n'a pas de rapport avec le droit des enfants. Et puis, voilà, j'ai exercé pendant assez longtemps. J'ai eu ensuite envie de changer d'activité et j'étais très sensibilisée aux droits des femmes et des enfants. Et puis, l'opportunité s'est présentée parce que je connaissais de longue date ma collègue Aude Mirkovic avec laquelle je travaille maintenant. On échangeait depuis longtemps et puis quand je lui ai dit que j'allais changer d'activité, elle m'a proposé de la rejoindre. Mais le conseil que je donne pour des juristes qui voudraient s'engager dans une association comme la nôtre, c'est d'abord de commencer par une formation de terrain. Voilà, moi, ma formation en cabinet d'avocate, elle est indispensable. Il faut d'abord se confronter. Une association n'a pas forcément les moyens de former. Et on n'a pas forcément... il faut aussi les outils, il faut apprendre à se battre. Et ça, on l'apprend, si on veut travailler dans le secteur de l'enfance, on l'apprend en travaillant en cabinet d'avocat ou en travaillant en protection de l'enfance. Donc moi, je conseille vraiment aux uns aux autres qui sont attirés par ce secteur d'acquérir d'abord une expérience dans un domaine qui n'est qui est peut-être moins confortable parce qu'il est, il sera pas, il partagera pas forcément nos idées, mais ça permet d'acquérir les outils, même les armes, je dirais, la combativité nécessaire et l'expérience nécessaire aussi.
Eh bien, merci beaucoup, Olivia Sarton. Nous arrivons au terme de cette émission.
Merci, Sandra. Merci à vos auditeurs. Merci, Bruno.
Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission « Défendons nos enfants » avec l'association Juristes pour l'enfance. Et aujourd'hui, Olivia Sarton nous a parlé du thème suivant « Le danger des réseaux sociaux pour les enfants ». Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.